Autrefois, au début de l'année civile, il y a très longtemps, c'est-à-dire au millénaire précédent, on avait l'habitude de dire bonne année, bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. Puis la voisine ou le voisin qu'on appréciait moins, on disait le paradis à la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la parole de Dieu dans la première lecture nous a proposé une très belle bénédiction. La deuxième lecture nous a proposé cette bouleversante bénédiction de la filiation divine. Et puis il y a cet évangile que nous n'entendons que deux fois dans l'année. La première, c'est pour les plus vigoureux, puisque c'est la messe de l'aurore à Noël. Et la seconde, c'est aujourd'hui. Et c'est sur cet évangile que je voudrais m'arrêter. Le merveilleux petit tableau évangélique qui vient d'être présenté à notre contemplation est d'une pureté toute rare. C'est comme un silence. Un peu comme ce jour où Élie se tint dans une caverne, une grotte, en attendant le passage de Dieu. Nos traductions explicatives édulcorent la saveur hébraïque un peu rugueuse du texte originel. Nos traductions parlent d'une brise légère annonciatrice du passage de Dieu. Le texte dit en fait qu'Élie entendit le son d'une poussière de silence. C'est un peu pareil dans cette grotte de Bethléem. Il n'y est en effet prononcé aucune parole par aucun des acteurs peints par le narrateur évangélique. Tout y est décrit avec la sobriété dont sont capables les pauvres. Nous avons juste l'essentiel, c'est-à-dire ce qui reste lorsqu'on a ôté tout le superficiel. C'est comme un écho mystique à l'incapacité du petit enfant, l'infance. Le Verbe fait chair de prononcer encore la moindre parole. Nous sommes ainsi invités, pour ainsi dire, par l'évangéliste à vivre cette scène en nous laissant conduire, en passant doucement d'un personnage à l'autre, comme on contemple une peinture dont les traits de couleurs et les teintes travaillées nous prennent comme par la main. Il y a d'abord les bergers. Ils ont marché dans la nuit avec leurs bêtes. Il a fallu trouver cette grotte. Peut-être ont-ils dû en faire plusieurs avant de trouver la bonne. Ces hommes connaissaient sans doute les alentours et tous les recoins qui permettent de se protéger des intempéries. Trouver un enfant nouveau-né dans une grotte, cela ne devait pas être trop courant à cette heure, par cette nuit, en cette saison. Et pourtant, c'était le signe, un signe ô combien silencieux, un signe qui ne faisait pas de bruit, un signe qui ne pouvait donc pas tromper. Alors ces pauvres-là trouvèrent le lieu et découvrirent la scène telle que les anges la leur avaient annoncée. Marie, Joseph, le petit bébé couché dans une mangeoire. De Marie et Joseph, nous ne savons rien. Ils sont là, ils sont juste là dans la nuit, silencieux, devant ce petit enfant Dieu. Ils écoutent la fragile respiration de l'enfant qui ne porte pas encore de nom, puisqu'il ne le recevra que 8 jours plus tard. Souvent, les pauvres non plus n'ont pas de nom. L'arrivée des bergers avec leurs bêtes attire leur attention. Qui va là? Va-t-il falloir quitter les lieux déjà? Mais non, les bergers se mettent à raconter ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. Remarquez que cela a dû aller assez vite car les anges ne sont jamais trop loquaces. De fait, cela tient en peu de mots. Un sauveur leur était né. Un signe leur était donné, un petit bébé dans une mangeoire. Oui, une mangeoire, parce qu'un jour il se donnerait à manger. Quel mystère! Seulement voilà, les bergers n'étaient pas les premiers. Il semble qu'il y ait déjà eu du monde à l'entrée de cette grotte. On n'est jamais tranquille, même la nuit, dans une grotte. Cette foule, personne ne sait d'où elle est sortie. Avec le tintamarre que les anges avaient dû faire dans les champs, beaucoup s'étaient sans doute réveillés dans la nuit. C'est bien possible, mettons-nous à leur place. Avec une telle joie, il fallait bien qu'ils la communiquent. Mais tous furent étonnés. Cette foule, dont les pharisiens auront bientôt mépris de l'ignardise, cette foule de pauvres gens s'émerveille et se demande ce que tout cela peut bien vouloir dire. Et puis, dans une sorte de circulation lumineuse, tout revient vers Marie. Elle écoute. Elle entend ses étonnements. Elle regarde ses visages joyeux. Elle contemple cette toute première gloire de Dieu, de son enfant Dieu, qui enthousiasme toutes ces petites gens. Elle se dit alors, comment Dieu a-t-il pu se faire si petit au point de vouloir naître ainsi? Il me semble que Marie n'en revient pas. Elle médite tout cela dans son cœur. Et puis ces pauvres se remettent en route. Ils sont les tout premiers messagers qui vont annoncer cette bonne nouvelle dans les bourgs voisins. Et la scène semble se refermer sur ce départ, comme un rideau qui tombe avec beaucoup de pudeur et de douceur sur cette sainte famille, tellement à part, blottie dans la joie, l'amour et la foi. Oui, la foi d'être là devant le Sauveur du monde. Joseph repasse dans son esprit le songe qu'il a reçu 6 mois auparavant, lorsque Marie revenait de chez sa cousine Élisabeth. Mais ce passage-là, l'évangéliste Luc ne le rapporte pas. C'est une autre affaire, l'affaire d'un autre. Il faut laisser à chacun sa part d'évangélisation et de silence aussi. La scène que je viens pauvrement de décrire à vos oreilles a été mise en note dans la seule pièce grégorienne de cette messe qui ne soit pas tirée du commun de la Vierge Marie. Il s'agit de la communion, « Exulta filia Sion ». Sur les paroles du prophète Zacharie, les voici, « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. » Sur les paroles du prophète Zacharie, le compositeur grégorien a su mettre une liesse lumineuse contenue et comme intérieure. Il faudrait des compétences et une mesure de temps dont je ne dispose pas pour narrer toute cette exultation sereine. La finale doit cependant retenir notre attention. Là où le prophète Zacharie parle d'un roi juste et victorieux, le moine compositeur confesse la foi catholique et déclare ce roi sauveur du monde. Voici ton roi qui vient à toi, dit le texte en latin, le sauveur du monde. C'est le génie grégorien de ces hommes de Dieu qui savent par la musique faire chanter l'exultation, le silence et la théologie. Dieu sauve, tel est bien le sens hébreu du prénom de Jésus, Yeshua. Et tout cela, nous le devons à Marie, la fille de Sion, que nous célébrons à la messe de ce jour. Et nous le devons aussi à Joseph, gardien de la Vierge et du silence. Qu'il nous conduise toujours sur ce chemin de la foi. Et que la paix qui rayonne de cette crèche se répande par les mains immaculées de Marie, Mère de Dieu, sur notre monde qui en a tant besoin. Amen.